Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. En fait, c'est la suite de l'épisode précédent. Je suis toujours accompagné de mon acolyte John.
Hello.
Et voilà, donc ce sera un épisode sans news parce que l'épisode d'avant était exclusivement consacré aux news. Et dans cet épisode, nous allons parler un petit peu de sécurité, un petit peu de nos geekages et un petit peu des recos qu'on pourrait avoir pour Noël. Pour Noël. Ouais, voilà, des recos. Est-ce que tu voulais commencer, John?
Ouais. Dans le dernier épisode, on a parlé, enfin, je t'ai parlé d'un truc qui pouvait t'intéresser via OpenStreetMap, qui était fait par l'IGN. Et comme promis, je suis parti chercher le petit fascicule que j'avais, donc je vais pouvoir te donner le nom.
Est-ce que tu l'as mis dans les notes de l'émission? Ça, c'est la question. Est-ce que tu l'as mis pour
Non.
les
Mais je vais le
auditeurs?
mettre, c'est donc Panoramax. Je vais le
Panoramax.
mettre au-dessus de. Au-dessus de Geekage. Donc voilà, c'est Panoramax, le nom de cet outil. Voilà, donc on peut prendre des photos à 360 degrés avec n'importe quel type de d'appareil. Appareil photo, vidéo, etc. On peut partager les photos sur le site panoramax.xyz. On peut les stocker aussi. Ils ont créé un forum de discussion justement.
Panoramax.xyz, es-tu sûr de toi?
Oui. XYZ.
Est-ce que je suis dyslexique? XYZ,
Panoramax.
non.
Panoramax. Donc voilà, il y a tous les deuxièmes lundis de chaque mois, à 17h, il y a un. Ils ont appelé ça les temps d'échange. Voilà, ça se passe sur Jitsi. Voilà, c'est
Très francophone comme projet, je vois, parce que on a la liste, c'est quasiment que la France en fait.
c'est fait par l'IGN. Après, chacun libre à chacun. Et du coup, je vais te
Ah,
lire un peu le fascicule. Enfin, je vais vous lire le fascicule. Panoramax fédère les initiatives des collectivités, des contributeurs OpenStreetMap, de l'IGN pour favoriser l'émergence d'un géocommun de base de vue immersive. Des photos de terrain 360 degrés ou non, accessibles à tous, des standards et des règles d'utilisation et de contribution, des bonnes
merci. Vas-y.
pratiques et des outils pour favoriser les usages, un hébergement flexible, une fédération avec des solutions adaptées aux usages de chacun. Instances communes et auto-hébergées, un principe commun d'ouverture des données, des licences d'utilisation libres propres aux instances, et surtout une gouvernance commune. Des processus ouverts de décision, des moments d'échange ouverts à tous les membres de la communauté, une multiplicité d'acteurs pour assurer la pérennité du projet. Du coup, sur la photo, il disait, à partir d'une seule photo, de nombreuses informations peuvent être collectées, couvrant d'innombrables besoins, gestion des déchets, panneaux de signalisation, équipement des réseaux électriques et téléphoniques, rénovation urbaine, etc. Un outil puissant pour le suivi et l'aménagement du territoire en appui aux collectivités, aux politiques publiques. Il y a 90 000 km de distance couverte, 10 millions de photos sur Panoramax. Voilà. Il y a les différents liens pour rejoindre le forum des géocommuns. Alors là, ça va être dur, attention à la dyslexie. Le groupe de travail CNIG, vue immersive et de terrain d'acquisition terrestre. Les ateliers de gouvernance, échange en visio pour décider collaborativement du pilotage du projet. Et les temps d'échange, bien sûr, que je disais tout à l'heure, donc qui sont les deuxièmes lundis du mois à 17h, donc heure UTC Paris, quoi. Et ça se passe sur Jitsi. Donc je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien dans les notes. Voilà. Donc pour le coup, c'était super sympa. Et puis le projet en soi, comment dire, sent bon. Reste à voir ce qui va en être fait et est-ce que la communauté va suivre. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne. Je trouve que c'est une bonne idée.
Ok, moi j'ai commencé à parcourir pendant que tu
Je faisais la
parlais.
lecture.
Ouais, pendant que tu faisais la lecture. Bon, j'ai l'impression que tout le monde peut le faire en fait. Je vois, il y a des particuliers, c'est-à-dire, c'est pas comme Google Street View où c'est en 3D, hein. J'ai l'impression que c'est un peu des particuliers qui juste mettent leur téléphone. Je sais pas si c'est des images qui se prennent à intervalles réguliers ou à partir d'une vidéo où ils extraient les images. Ce qui est marrant, c'est que tu vois le devant des voitures. Tu vois un peu le capot, enfin clairement c'était un téléphone ou posé devant là. Voilà, t'as la date où c'est pris. C'est pas 3D, tu vois que le devant pour le moment, mais parce que j'imagine ils ont pas les caméras très 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 fortes là.
On parle quand même d'un truc qui a été créé par l'IGN, donc voilà. C'est la France, monsieur, derrière.
Ouais,
Ce n'est pas
non
les
mais
USA.
non, bah il n'y a pas eu autant moyen de faire, ouais, ça c'est sûr. Pas toutes les photos, parce que je pense qu'il y a des particuliers qui ont participé, hein, vraiment. Il y a des traces qui sont oranges, qui je pense d'ailleurs sont de meilleure qualité, qui je pense sont les gènes, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a des particuliers, traces bleues là, où là tu vois les photos des voitures. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que du coup, il y a quand même toute la partie. Ah oui, bah tu vois les utilisateurs qui ont posté d'ailleurs, Zimmerman. Ah ouais. Ouais, t'as le la les voitures qui ont les plaques floutées, les visages sont floutés. J'ai l'impression que ça respecte quand même plutôt bien les gens quoi, la privacité des gens. Voilà. Des fois la géolocalisation, j'ai l'impression elle n'est pas folle folle, mais écoute, ça se passe bien. Ça a l'air prometteur. Au moins, tu as un street view où tu peux réutiliser les images. Ok. À participer, ce serait le fun à faire de mettre une caméra sur son téléphone, tu filmes ton trajet, ton voyage, ton trajet au voyage là, et puis hop, voilà, tu participes à améliorer les données de la France. Je pense. Je vois qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire là. C'est surtout les grands axes routiers qui sont faits. Donc ouais, je pense que si vous vous embêtez, vous pouvez participer. Voilà, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter là-dessus? T'as bien présenté?
J'attends la suite.
Voir ce que ça va devenir?
Ouais, voir si ça va suivre et ouais, voilà. Comment ça va évoluer, mais je pense que ouais, le lundi du mois de janvier, je pense que j'irai voir sur Jitsi Meet comment ça se passe. Sachant que quand on ouvre l'agenda à partir du site, donc panoramax.fr, ça nous ouvre un CryptoPad.
CryptoPad. Ok.
Donc on peut voir que le prochain, ça sera donc.
C'était dans quel sujet ça? Recommandation?
Ouais.
Donc on continue avec les recommandations? T'en as une autre ou j'y vais? Comment on fait?
Bah vas-y, parce que j'ai beaucoup
Ouais.
parlé le temps que j'ai fait la petite lecture, et puis ça va me permettre de remettre les mains, remettre les idées en place, que je retrouve ce que je voulais partager, que je n'ai pas
Ouais.
encore eu le temps de mettre.
Ben moi, je vois que j'ai mal copié mes liens là. Est-ce que j'ai mis dans... je voulais parler de Macup, sauf que j'ai copié le lien de Gnome qui reçoit 1 million. Je vais aller corriger ça. Laissez-moi me remettre le projet sous les yeux. Macup, voilà. Donc une petite application en recommandation, application. C'est du Python, donc ça marche sur à peu près tous les systèmes d'exploitation. Tu peux y avoir sur Mac, sur Windows, sur Linux surtout. Qu'est-ce que ça fait Macup? Alors, comme son nom ne l'indique pas du tout, Macup, c'est pour sauvegarder tes configurations sur du cloud. Globalement, il y a toi, t'avais, il me semble que pendant un temps, ce que tu faisais, c'est que tu synchronisais. Il me semble hein, que tu faisais ça, hein, tu synchronisais ton home, enfin pas ton home, mais tes fichiers de config là sur ton GitHub. Mais il y en a qui font ça. Non, c'était pas ça que tu faisais?
Non, non, moi j'utilise la méthode de base, à savoir disque dur. Il y a juste sur GitHub, je mets juste le script d'install pour des nouvelles installs de post-installation. Mais non, j'utilise les disques durs comme ça avec ton autre ta partie geekage. Pour affecter les bons droits, etc.
Ok, d'accord. Bon, déjà, je retire ce que j'ai dit. C'est pas compatible Windows. C'est uniquement compatible Linux et Mac, Unix. Donc, qu'est-ce que ça fait cette chose-là? C'est qu'en gros, ça prend vos configurations et les configurations de plein de logiciels. Ça gère vraiment. Je pense, t'as plus d'une centaine de logiciels qui sont tenus comme tes configurations Bash, tes configurations Zoom, tes configurations bah, ZSH, tes configurations Tmux, tes configurations Git, tes configurations Python, tes configurations Rclone, on aura le temps d'en reparler, tes trucs Remote Desktop, tes trucs Redshift, je prends des noms SSH, Mumble, MySQL, Mail, Thunderbird, Firefox, bref, plein de logiciels et ça gère toutes tes configurations et ça te les stocke dans tes clouds privés. Ça peut être capable de stocker dans Dropbox, Google Drive, iCloud et même Git. Mais en fait, dans tout ce qui est un fichier, tu peux t'en servir. Ça peut même être capable de mettre sur un disque dur externe, d'ailleurs. Mais en plus, ça gère les cloud providers. Pas cloud providers, le stockage en ligne. Donc voilà, un petit outil pratique pour sauvegarder ses configs avant un... Donc tu peux la sauvegarder et la réimporter, évidemment, hein. Et voilà, imaginons que tu prépares un formatage, tu veux reformater ta distribution, tu sauvegardes ça dans ton drive, Google Drive, tu refais un fresh install, tu réimportes, hop, tu récupères ton browser avec l'historique, avec tout ce qui va bien, tes marque-pages, tes machins, comme si tu n'avais pas fait de formatage, quoi. Tous ces pratiques, tes développeurs, t'as tout ton environnement qui est fait, tes setups avec ton IDE, tes machins, tes trucs, hop, tu retrouves tout. Plus qu'à réinstaller les logiciels après là sur ton fresh install, et puis tu retrouves toutes les configs comme si tu n'avais jamais formaté. Voilà, petit logiciel qui m'a l'air sympa. Toi, tu fais à la mano, donc j'ai bien
Ouais.
compris que ça t'intéresse pas trop.
Bah, je vais jeter un œil. Moi, le truc, c'est bah, généralement quand je refais une install, bah déjà c'est rare quoi. Mais
Oh le
ouais.
monsieur, oh le monsieur, c'est rare. Fedora,
Non,
vous
mais
faites
c'est vrai.
jamais des installs.
Bah non, moi je fais des mises à jour direct.
Ah ouais?
Ouais. Après, bon, des fois, c'est vrai que peut-être de repartir sur une instance.
Vierge serait peut-être mieux. Mais ouais, je préfère moi utiliser après un truc avec Hyperclone. Bah, pour être sûr d'avoir les droits, etc. Mais ouais, je vais jeter un œil là-dessus parce que pour le coup,
En fait, ce
le
qui
seul
est...
truc
Vas-y.
qui bloque avec AirClone par exemple, enfin avec ma méthode que j'utilise, c'est que par exemple, il faut que je pense avant d'appliquer AirClone à bah, installer les logiciels, donc à bien faire mon script de post-install comme il faut et mettre à jour mon script de post-install avec les nouveaux logiciels que j'installe. Typiquement, j'ai utilisé pas mal d'outils d'OSINT ces derniers temps et j'avais oublié de les synchro. Donc, quand j'ai fait la dernière réinstall que j'ai faite, par exemple, avec le AirClone, alors oui, j'avais bien mes dossiers d'outils d'OSINT basés sur du Python, style Mr. Holmes, etc. Mais il y en a certains où c'était du Go et j'avais oublié de réinstaller Go.
Ah, tu seras toujours obligé de le faire, ça, quand même.
Ah, ok.
C'est pas,
Ouais.
ça réinstalle le logiciel, c'est vrai que ce serait pas
Ouais.
mal, cette feature. Ah, il y a les pompiers à Paris.
Oui.
Les policiers, les pompiers, je sais pas.
Non, non,
Non, là, en fait,
pompier.
l'idée, c'est plutôt que de copier son home comme un bourrin. Il va vraiment y aller chirurgicalement, prendre juste la config. Je prends exemple, bah, toi, tu développes pas en Java, mais ou en Go, là. Quand tu installes un logiciel, il télécharge les dépendances.
Ouais.
Oula, il y a beaucoup de bruit. Ouais, ça télécharge les dépendances, tout ça. Donc, tu as des histoires de cache que tu veux pas forcément. Tu veux juste garder la config. Les configs ou l'historique ou les choses comme ça. Mais je sais pas, je pense au Java, là, ou même NPM, JavaScript. Tu vois, ça télécharge plein de librairies, machin. Bah, tout ça, il va être assez chirurgical pour pas le prendre. Et prendre uniquement la partie configuration, c'est-à-dire j'ai configuré pour être sur un VPN, pour être sur un serveur d'entreprise, pour être sur je sais pas quoi. Après, ce sera à toi de télécharger. Donc, pour quand même avoir des backups light, mais qui conservent les choses qui fonctionnent, quoi.
Ouais. Donc ça te
Voilà,
fait
genre Steam,
l'équivalent
il
d'un
va.
petit gitignore, quoi. Ça te
Ouais,
prend
voilà,
que
c'est ça.
la finalité de la configuration et pas.
Pas le gros bourrin, ouais. Pas le gros
Ouais,
bourrin. Je
ça peut
pense à
être
Steam, il va
intéressant.
pas aller te télécharger les jeux, mais il va te télécharger tes configs. Tu sais, des fois quand tu dois faire des configs, je sais pas entre. Ah, j'ai pas. Moi, par exemple, j'ai un jeu sur que je fais tourner avec Wine là de Steam, Kozak 3 là pour le citer, mais il marche pas si je l'installe out of the box sur Steam. Il faut que je change un petit truc dans dans le point .sh là ou je sais pas quoi. Enfin dans le launcher, j'ai un petit attribut à faire, je sais plus exactement c'est quoi la manip. Bah tu vois, il va pas aller télécharger tout le jeu Kozak, il va aller juste aller télécharger la manip que t'as faite quoi. Voilà voilà.
Ok.
Bon allez, on passe à autre chose. On a déjà passé beaucoup trop de temps sur ce sujet. Moi, l'autre recommandation que j'ai à vous parler, c'est Librem. Alors Librem, c'est en fait, je planifie pour Noël, pour Noël ou mon anniversaire ou je sais pas exactement quand. Mais globalement, je planifie de me. Ah, j'ai du mal à parler. Désolé, je suis un peu fatigué. Je planifie de passer à la rideuse. Pourquoi j'arrive pas à le dire en français? Comment on appelle ça les trucs tu lis des livres, mais pas des livres sur écran.
Oui, si, c'est ça, c'est une liseuse.
Une liseuse, ok, sur une liseuse électronique. Voilà, donc je planifie peut-être de m'acheter ça. Donc il faut encore que j'en cherche une qui est, comment dire, qui est,
Ouverte.
voilà, ouverte. Je veux pas du Amazon, mais toi, voilà, être capable d'uploader des PDF ou des e-pubs, de mes PDF, mes e-pubs, que je puisse accéder au truc, etc., etc. Bon, et ben un petit logiciel. Donc un petit, mets-toi un mute, John, s'il te plaît. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais, donc un petit logiciel sympa, c'est Librem. Bon, bah, voilà, ça porte son nom. Librem, c'est un truc qui te permet de te faire ta collection de e-books. C'est un petit logiciel qui permet de faire la petite collection de e-books. Tu peux, c'est sur Internet, enfin c'est en mode web, quoi. donc pour pouvoir y accéder depuis n'importe où. Tu peux te aller sur leur site à eux ou te l'auto-héberger, donc totalement libre. Et en fait, l'idée, c'est donc de mettre tous tes e-books et de pouvoir les synchroniser entre plusieurs de tes applications. Retrouver ton e-book sur ton téléphone, sur ta liseuse, sur ton PC, sur plein de choses là. Donc voilà, l'idée, c'est d'être de centraliser un peu tous tes livres, et puis c'est une plateforme de lecture cross-plateforme là, voilà. C'est un projet assez nouveau, donc je pense qu'ils attendent des retours. Ils seraient très contents de faire des retours et de recevoir des retours. Et voilà, si vous avez envie un peu de geeker pendant les vacances, je conseille d'aller y faire un tour. Ça a l'air prometteur. Alors je sais qu'il y a d'autres choses qui existent, des logiciels qui existent déjà. J'ai oublié c'est quoi le nom sur Linux là, un qui est connu. Ah, je sais plus.
Calibre,
merci. Voilà. Alors je sais qu'il existe déjà un logiciel sur Linux qui fait parfaitement le travail, qui permet d'envoyer ton ebook sur ton sur ta liseuse. C'est pas l'idée, c'est pas d'aller concurrencer Calibre. C'est parce que si t'as tes e-books, ils sont uniquement accessibles sur ton PC, ils vont pas être accessibles quand t'es ailleurs, quand t'es sur le web. Voilà, là, l'idée, c'est de faire ton instance accessible aussi via le web et tout ça. Voilà, c'est tout pour les recommandations que j'ai. C'est tout. Est-ce que tu veux passer... Alors, si on parle de sécurité, c'est encore ouais. Moi qui vais monopoliser la parole, j'ai l'impression.
Bah, déjà, tu peux le faire avec oui. Jellyfin, le partage d'e-book.
Ah bon ?
Oui,
tu peux faire e-book, c'était juste les... Je pensais que c'était juste les films.
Je vais même te faire un partage d'écran via Discord. Tu peux voir la galerie qui d'ailleurs sur mon Jellyfin à moi, c'est plus justement la partie e-books parce que j'en ai pas mal. J'ai déjà tout ce qui est Bash, etc. Alors, hop, voilà. Alors, je fais exprès de mettre deux S au truc libre. Mais voilà, tu peux les mettre. En fait, moi, le truc, c'est que j'ai pas tout mis en termes de vidéo encore sur le Jellyfin parce qu'il tourne sur le Raspberry Pi. Mais en soi, les PDF e-pub et tout, ils prennent moins de place et ça permet de les synchroniser plus rapidement quoi. Enfin de pouvoir qu'ils soient accessibles à différents appareils. Ils gèrent Calibre. Donc quand tu fais tes books avec Calibre, ils prennent en charge l'architecture, on va dire, des infos, voilà, de Calibre. Par exemple, voilà, tu vois, par exemple, j'ai Mémoire vive de Snowden et il apparaît sur Calibre quand je le mets depuis sur Jellyfin, donc on voit bien la première page de couverture, etc. C'est plutôt pas mal. Après, je sais pas si c'est vraiment optimisé pour les livres, dans le sens où moi je m'en sers en local, donc c'est difficile pour moi de voir de trouver des problèmes, tu vois, de synchronisation ou autre, comme je suis qu'en local, voilà.
Ouais, t'en as pas trop l'utilité.
Sors pas de mon réseau. Peut-être que je l'ouvrirai après en dehors, mais quand j'aurai bien sécurisé mon Raspberry Pi, que je serai connecté en réseau filière, parce que là je suis en Wi-Fi, et comme je suis en immeuble. Autant te dire qu'il n'y a pas qu'un seul réseau Wi-Fi, donc ça crée quelques perturbations. Mais en tout cas, Jellyfin, j'en suis assez content. Hein. C'est plutôt pas mal.
Bah, tu verras quand tu passeras la vidéo. Ce sera pas top. Je suis revenu en arrière, mais on en discutera dans les cages.
Ouais.
Ok. Bon, je vais parler un peu de sécurité.
Ah.
Oh, ça va être rapide. Là, je vais parler. C'est le temps des fêtes. Allez, on va rigoler un peu. On va parler des mousquetaires. Est-ce que tu connais les mousquetaires, l'enseigne les mousquetaires?
Oui.
Intermarché. Ah oui,
Oui.
t'aurais dû le dire. Non, je rigole. Oui, donc en France, on a une chaîne
D'hypermarché. Ouais, super.
De marché même, on va dire, qui est les Mousquetaires, mais ça a donc Intermarché, mais ça a aussi Bricorama, Brico Cash, Netto. Est-ce que tu peux mute, on entend du son,
Ouais.
les enfants en fond. Voilà, qui ont, c'est bon, bref, les Mousquetaires, c'est une enseigne de plusieurs magasins, et en fait, je vous mets un lien donc vers un article qui est de, j'essaie de retrouver la date là, de octobre 2023, où en fait c'est le chef de la cybersécurité de tous ces magasins qui vient discuter. Il s'appelle Fabrice Bru, si je me rappelle bien. Et juste comme ça, il nous dit un peu les enjeux auxquels il a dû faire face. Donc il arrivait pendant le Covid, donc juste avant le Covid, là, juste au moment des confinements. Et donc pendant la pandémie, ils ont constaté vraiment une hausse des tentatives d'attaque cyber. Et voici comment, à ton avis, comment toi tu t'y prendrais pour essayer de faire chier les enseignes de Covid, des enseignes de supermarché pendant le Covid, John? On va essayer de faire ça un peu interactif.
Sur quel point?
T'es
De manière
Intermarché.
générale?
T'es Intermarché, les gens, c'est limité pour qu'ils puissent venir chez toi. Il y a les histoires de drive et tout ça. T'es un hacker ou un concurrent et tu veux les bloquer. Comment tu ferais?
Déjà, je sais pas, une petite attaque DDoS.
Ça pourrait être, ouais, exact.
Ensuite, je sais pas, je m'arrangerai pour surcharger les pages qui concernent les horaires d'ouverture et s'il faut
Exact. Et tu vois,
prendre des rendez-vous.
t'as la graine d'un hacker. Alors, soit t'as lu l'article en secret.
Non, j'ai pas lu l'article.
Eh ben, graine de hacker, c'est exactement ça qui s'est passé. Ils se sont rendus compte que tous les créneaux de livraison, de réservation se faisaient réserver dès l'ouverture. Avec des comptes factices, tout ça, tout ça. Donc, ils ont dû mettre en place des techniques pour bloquer ça. Déjà, le premier truc facile, c'est parce qu'ils sont à l'international, mais tout ce qui n'est pas en France, Pologne, Belgique ou Portugal, ils ont bloqué. Donc là où ils n'étaient pas implémentés, ils ont laissé que les IP de là où ils étaient implémentés. Comment dire? Ah, j'arrive pas. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, là. On voit que ça va être les vacances de Noël et que je vais avoir besoin de vacances. Ils ont mis en place des systèmes où ils s'amusent à mesurer. Ok, pour faire la commande, pour faire la commande, il a mis que 5 secondes à faire sa commande, alors qu'un humain, il en mettrait au moins 1 minute ou au moins 30 secondes. Donc c'est beaucoup trop rapide. Donc on suspecte l'IP à l'étranger, on suspecte le compte, il est trop récent, on suspecte. Voilà, plein de règles qui permettaient de filtrer un peu les commandes là pour essayer de désengorger les gens qui saturaient les réseaux. Un deuxième vecteur d'attaque auquel ils ont dû faire face, c'est les usurpations de comptes. Donc ce qui s'est passé, des gens qui mettent le même mot de passe partout, donc ils se font voler leur compte, puis ils le savent pas, mais ils ont plein de points de fidélité en fait quand ils font des achats, et puis plein de gens qui en fait sur le black market récupèrent des comptes hackés et puis te revendent, je sais pas moi, 100 € d'achat chez Intermarché via les cartes fidélité ou tout ça là. Donc il y a eu des usurpations d'identité, il y a eu des vols de comptes, il y a eu des bruits de force. Voilà, il y a eu tout ça, donc leur cagnotte en ligne et tout ça là, donc Voilà, je dirais que c'est les deux, trois enjeux majeurs auxquels ils ont dû faire face pendant la pandémie. Je trouvais que c'était un retour d'expérience assez sympa. Donc là, je le résume mal. Et puis en plus, je suis pas dans le meilleur de ma forme là en termes d'explicite. Enfin, je suis pas très voilà. Ouais, j'ai du mal à parler là. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais voilà. Je vous conseille de lire l'article. C'est un joli retour d'expérience sur comment ils ont fait face aux hackers pendant la pandémie. Quand tu es une enseigne en ligne qui gère 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors du coup, je vais parler encore. Putain, j'en ai encore d'une attaque, la faille Lonely Tunables. Donc là, c'est un article de IT Connect. En fait, celui-là, il est vachement tricky. Il est court, en fait, on va pas se mentir. Alors, c'est alors la vulnérabilité Lonely Tunables. Ça a été découvert par les chercheurs de Calis. Alors, quand t'es au Québec, ça fait rire parce que Calis, ça veut dire autre chose. Mais voilà, eux, ils disent Qualys pour pas dire Calis. Mais nous, on peut dire Calis, on s'en fiche. Mais voilà, donc c'est une société de sécurité qu'on trouvait un problème dans la libc de GNU Linux, là, glibc. Et en fait, en quoi c'est intéressant? Donc c'est un truc qui date de 2023. Et il y a aussi une faille de 2017 dans PHP Unit, là, quand les gens ils font du PHP. Et en fait, quand tu es dans le cloud, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux démarrer ton conteneur avec ton environnement à toi. Et il y a une des vecteurs d'attaque est d'installer, bah surtout quand tu es un provider d'hébergement, tu fournis des machines virtuelles, des choses comme ça. Mais les gens font exprès d'installer des trucs qui sont vulnérables pour pouvoir exploiter les failles. Et là, en fait, les mecs, ils ont été très sympas, très intelligents. Ils ont, je crois que c'est sur AWS, ils sont partis d'une faille PHP. Donc, ils se sont installés une nouvelle version de PHP Unit, là. Et avec celle-là, ils l'ont couplé avec la faille Lonely Day, donc ça c'était en 2023, qui est dans le glibc, mais en gros, grâce à PHP Unit, ils ont pu accéder à glibc et à partir de là, ils ont pu genre compromettre tout le cluster quoi Amazon. Alors que Amazon est censé te fournir un truc qui est sécurisé. Mais juste ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, c'est le fait de partir d'une faille connue, une vieille faille, hein, 2017, c'est dinosaure dans le monde de la sécurité, pour le coupler et l'exploiter avec des trucs beaucoup plus récents. Parce que une faille glibc, t'en fais rien, tu peux pas l'exploiter comme ça, mais grâce à une autre faille qui existe, que tu fais exprès d'installer des trucs faillibles, ça peut faire des dégâts quand même. Donc voilà, j'avais trouvé ça malin. Moi, je me rappelle, j'avais eu un petit challenge de hack. J'avais fait ça l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et en fait, première étape, c'était d'accéder au WordPress, à l'administration du WordPress. Et à partir de là, super, t'as accès à l'administration WordPress. Tu peux quoi changer les articles sur un blog, blablabla. Mais comment tu vas plus loin? Et en fait, une des techniques, c'est d'aller installer des plugins qui ont des failles connues. Tu prends un plugin d'il y a 5 ans, tu l'installes sur ton WordPress, et à partir de là, hop, tu peux accéder à des failles, tu peux te faire des failles que tu utilises avec Metasploit et escalader les privilèges. Et voilà, en fait, je voulais juste parler de ça. Voilà. Est-ce que t'as compris quelque chose ou j'étais vraiment trop...
Ouais, non, c'est clair. En gros, il voulait avoir la main. Je vais essayer de résumer de façon très très vulgaire. Ils ont volontairement installé des modules qui étaient vulnérables et plus d'actualité pour pouvoir remonter les accès. Et au lieu d'avoir accès qu'à leur machine, qui est louée, au tout groupe de machines. D'AWS en question, mais dû avoir d'autres groupes impactés, ouais. Je pense.
En fait, exactement, c'est sur une machine, tu as plusieurs instances. Donc, tu n'es pas limité à ta petite instance, mais tu avais accès à toute la machine grâce à l'escalation de privilèges, mais ça n'empêche que tu pouvais voir d'autres choses quoi, que ce que tu es censé avoir le droit. Ça, c'est mon petit côté, il faut que je corrige. Mais ouais, c'est ça, juste pensez-y. Enfin, moi, c'est vrai que j'avais jamais réalisé quand t'es un cloud provider. Je l'avais fait pour WordPress, mais j'avais jamais réalisé pour un cloud provider. Mais en fait, les mecs peuvent faire exprès d'installer des trucs de merde, quoi. C'est tout de suite plus dur d'être hébergeur.
D'où la fameuse règle de jamais faire confiance à l'utilisateur.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais faut croire qu'avec le temps, je suis devenu un peu trop bisounours là. j'avais pas pensé à faire ça. Vraiment, ça. Quand j'ai lu l'article, ça m'a venu comme une révélation, quoi. Alors qu'en fait,
bah après, tu peux aussi être naïvement confiant envers certains providers qui engendrent des millions, voire des milliards d'euros, et te dire bon, ils ont peut-être eu l'intelligence de sécuriser un minimum leur environnement qu'ils vendent à leurs clients.
Bah surtout qu'ils produisent, ils ont des produits. Bon après, mais ils ont des produits de pour chercher les failles de sécurité automatiques, hein, AWS.
Ouais. Bah, c'est doublement pénalisant, quoi.
Ah ouais. Mais là ils ont fait, ouais, ils ont. Bah, ouais. Anyway, allez, passons à autre chose. Une dernière faille. Bon bah alors là, Terrapin Attack. Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est pour du Terraform ?
Non. Ah, ça aurait pu, mais non. Non. Terrapin Attack, c'est du SSH.
Le sac à dos.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bah, si vous avez un serveur SSH, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes probablement
infecté.
Infecté, voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Grosse faille pour la nouvelle année. Joyeux Noël. qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, un article, enfin c'est un site web carrément qui est dédié à cette attaque. Bon, j'entends beaucoup de bruit de papa. Merci. Ok, je vais essayer d'aller vite pour rendre ça un peu plus interactif, mais voilà, en gros SSH a encore connu un gros problème là. Ça se passe en 3 CVE. Il y a un site qui décrit exactement l'attaque, c'est vraiment complexe. Et ça dépend de ton implémentation. Voilà. Bon, juste qu'est-ce qui se passe? Globalement, les mecs, ils sont réussi à quand tu négocies, enfin quand tu te connectes en SSH, mais c'est dans le protocole, hein, ça. Hein, t'as toujours une phase. Bonjour, je suis le client. Bonjour, monsieur le serveur SSH. Je suis le client. Je voudrais me connecter. Ah oui, tout à fait. Quelle méthode d'authentification veux-tu utiliser? Ah, je voudrais me connecter avec ma clé RSA en cryptage 4000 bits. Très bien, monsieur le client, envoyez-moi votre clé, je reçois la clé, blablabla. Bon, tout ce genre de choses se passe en discussion entre client-serveur, où ils négocient, il y a une phase de négociation de technique d'authentification. Et en fait, les mecs, ce qu'ils ont réussi à faire, ils ont cuté les réponses du serveur. Genre lui qui t'envoyait la phrase en disant je t'envoyais 4000 bits, enfin bon bref, il y a des mécaniques de checksum, tout ça. Ils ont cuté la réponse du serveur, mais en fait ils downgrade, ils réduisent l'authentification, la force de l'authentification pour en fait faire en sorte que ça devienne très simple de casser de réduire la sécurité. Voilà, merci, de casser l'authentification. Merci, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je suis désolé pour l'épisode, ça va être cafouillé. Mais voilà, en gros, ils ont réussi à réduire, que ce soit beaucoup, 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 beaucoup plus simple de se connecter. Il y a aussi une histoire de buffer overflow, mais c'est très complexe comment ça se passe en interne. Je suis même pas sûr d'avoir tout compris, donc je vais pas faire le monsieur, mais en gros, ouais, SSH, ça craint en ce moment. Je sais pas si le fixe a été sorti. Si, je pense que le fixe a été sorti. Dans le site, là, il vous fournit un petit outil en Go qui permet de tester votre serveur SSH s'il est faillible ou pas, si vous êtes vulnérable. Même mettre à jour, je suis pas trop sûr que ça serve encore pour le moment. Si je vois qu'il y a les patchs, pardon, les patchs ont été sortis. Mais ouais, c'est tout. Enfin, je veux dire, là, c'est non seulement les serveurs SSH, mais aussi le SSL du web, HTTPS. Enfin, c'est violent. Ben voilà, il faudra mettre à jour les FTP, les machins, les trucs. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, en fait, qu'il n'y avait pas vraiment de sécurité. Ce qui est important, vraiment, quand vous faites votre serveur SSH, accéder à votre serveur, etc., c'est de changer les choses par défaut. Changer l'utilisateur par, même, tu mets un très gros mot de passe, change l'utilisateur par défaut, change le port par défaut, fais en sorte que tu ne sois pas scannable par les outils de masse, qu'on puisse pas te scanner. C'est souvent important de changer un peu les configurations par défaut. Juste ça, ça augmente votre sécurité de vraiment beaucoup. Parce que t'as beau avoir un mot de passe de 500 caractères, mot de passe très chiant, on pourra jamais le casser, peut-être quand on sera au quantique ou je sais pas quoi. Mais tu pourras toujours avoir un problème dans ton logiciel. Donc le mieux, c'est toujours de te cacher. Faire en sorte, un serveur SSH, moi? Non, je connais pas. Changer le port par défaut, changer l'utilisateur, changer plein de choses. Toujours quand vous faites du serveur, un petit rappel, un petit précaution de sécurité simple, mais qui peut vraiment vous sauver le cul en cas de grosses failles. Voilà, c'était mon petit instant recommandation. J'imagine que John, tu vas plus soyer mes recommandations.
Oui, et déjà, une règle de base pour la sécurisation, en plus de ce que tu préconises qui est vrai, changer le port 22, parce qu'il y a plein d'outils qui existent qui scannent ce port, et voilà, ça augmente les logs aussi. Un truc tout con, c'est même si SSH en lui-même, par la magie du web et de même si par miracle SSH n'est plus failli, faille, c'est pas exclu qu'il peut avoir un buffer, une technique type buffer overflow en passant par la surcharge de logs. Donc clairement, si on utilise un file to ban ou autre, une des bonnes techniques aussi, c'est de limiter
l'exposition.
L'exposition, la longueur des fichiers de log, préférer un export sur une autre machine. Bien sûr, pour un petit Raspberry Pi chez nous, ça n'a pas vraiment d'utilité. Dans le sens où, limite, s'il est chez nous, on a toujours accès de manière physique. Mais si on utilise un VPS ou autre, d'envoyer les logs le plus souvent possible vers une autre machine externe par un protocole pareil, de base, je sais plus comment dire ça, mais par exemple, on va pas l'envoyer sur du 80 ou du 443, on va essayer de choisir des ports un peu plus exotiques. Ça peut être
une bonne idée.
Une bonne idée. Et surtout, si on utilise, par exemple le RSA, par exemple, désactive les autres options, par exemple. Dans le fichier de configuration SSHD, qui est donc le fichier de configuration du serveur SSH, on va désactiver toutes les autres méthodes. Pas de mot de passe. L'utilisateur, si on parle de Raspberry Pi, Pi, on ne l'utilise plus. En plus, maintenant, Raspberry Pi Manager, par défaut, propose de changer les mots de passe, les noms d'utilisateurs, etc. Donc, pareil. On désactive la connexion route. On la refuse systématiquement. Un truc qui pourrait être pas mal, c'est de, par exemple, d'enregistrer les tentatives de connexion en route, de les retransmettre à des serveurs type en open source. Il y a par exemple CrowSec qui permet de signaler toutes ces tentatives malveillantes et de les faire partager à la communauté. Et on limite comme ça le champ d'action. Mais sur le web, malheureusement, ça reste toujours le chat et la souris, quoi.
Ouais, ça c'est sûr. Ils ont toujours un temps d'avance sur toi.
Ouais.
On passe au geekage, qu'en penses-tu ?
Oui.
Je pense que tu veux nous. On avait déjà commencé à spoiler en début des. On a déjà commencé un peu à en parler là, avec les livres et tout ça, mais je pense que tu voulais nous parler de Raspberry Pi.
Ouais. Et surtout
D'ailleurs, petite
de
question
que fait.
avant qu'on aille dessus. J'ai eu un petit débat. Raspberry Pi, ça s'écrit PI ou PIE?
Paille, c'est la tarte.
Ben justement, c'est ça que je me suis posé, moi. Est-ce que c'est Raspberry Pi, le nombre Pi, ou Raspberry Pi En gros, s'il y a un E, c'est la. Ou Raspberry Pi,
C'est la tarte.
la tarte, ouais. C'est la bonne question. C'est la question que je me pose. Parce
Non,
que Pi, c'est
effectivement.
Raspberry, c'est PI, quoi. Donc,
Oui,
peut-être un jeu de
et
mots.
du coup, il me semble que oui, c'est pour pi le chiffre, du coup.
Ben, ouais, on devrait dire Raspberry Pi, hein, je pense. Si on. Je
Oui.
pense.
Clairement.
Anyway, ouais, je me suis fait la réflexion l'autre jour. Donc, tu voulais nous installer Jellyfin sur Raspberry Pi. Tu as déjà commencé avec les livres. Donc, vas-y,
Oui.
explique-nous donc.
Alors, initialement, je l'avais installé via un Docker Compose sur le service que j'avais déjà partagé, qui est POSED. Ça a été comment dire, maintenu par un des youtubeurs Nova Spirit. Sauf que bon, il n'y a pas trop d'activité dessus. Ça a pris le temps. De base, c'est basé sur Portainer. Et voilà, j'avais installé comme ça. Le problème, c'est que on est vite limité par la configuration niveau Docker. Moi, par exemple, j'utilise Samba également. Et donc, en version Docker. Et j'avais certaines limitations. Par exemple, pour les dossiers, etc., fallait qu'ils communiquent et avec Samba et avec Jellyfin. Voilà, Docker, même si c'est assez stable et efficace, ça reste un conteneur. Donc voilà. Donc du coup, je suis passé en install classique. J'ai réinstallé Jellyfin, mais via les dépôts sur Debian directement, et tout en gardant la partie Portainer, hein, mais du coup ça m'a permis de la garder pour d'autres logiciels. Comme je disais, moi je l'utilise que sur mon réseau local Jellyfin, donc j'en suis content. J'ai pu tester l'IPTV, j'ai testé la lecture de films et de vidéos perso directement sur mes différents périphériques. J'ai pas rencontré de soucis. En même temps, le niveau que j'ai, le maximum, c'est de l'HDTV en 1080p. J'ai pas au-dessus. Voilà. Pour la partie Jellyfin, moi, j'en suis assez content. J'ai mis quelques temps avant de comprendre réellement comment bien configurer les répertoires, etc. Forcément, au lieu de lire la doc, j'ai essayé de faire ça à la mano directement. Du coup, j'ai perdu pas mal de temps. Donc, ne faites pas comme moi, regardez la documentation. Vous implémenterez beaucoup plus vite Jellyfin. voilà, en soi, je suis assez content de cet outil. C'est pas mal. La version sur smartphone pour se connecter au client fonctionne bien, même pour que du local comme moi, il le prend bien en charge. J'ai créé trois utilisateurs, c'est pas mal. On peut segmenter, par exemple, faire un compte que pour les enfants où on va donner accès qu'aux dessins animés aux livres audio.
Alors, on va pas donner accès à certains films violents ou
Voilà.
explicites.
Voilà. On peut vraiment. Il est paramétrable à souhait, quoi.
C'est marrant parce que donc Jellyfin, déjà pour redire ce que je pense, on l'a pas dit. On part du principe que tout le monde sait ce que c'est, mais c'est
Oui.
comme un Kodi sur le web là, enfin que c'est pour faire du streaming quoi.
c'est pour accéder faire à vos son contenus. Petit Netflix.
Son petit Netflix, ouais, c'est mieux. C'est plus connu. Moi, je l'ai installé sur mon serveur qui est un Arch Linux. Et souvent, en fait, les repos, ils cassent. Ça me casse, ça me rend ma distribution instable, mon serveur instable, donc j'aime pas. Alors, tu vois, au contraire, j'aurais préféré, je pense, l'installation du Docker pour stabiliser mon système. Tu bouges ton micro, non? Beaucoup.
Oui. Ouais. J'ai perdu une petite vis.
Ouais, j'aurais voilà pour j'aurais gagné à avoir c'est l'inverse de toi, mais j'aurais gagné à avoir du.
Une version compose.
Ouais, une version compose, je pense. Donc déjà, ça, c'est le premier truc qui fait que je suis revenu en arrière. Le deuxième truc que j'ai eu, enfin, j'ai eu trois problèmes, donc ça, c'est le premier. Le deuxième truc que j'ai eu, c'est que moi, je stream pas de chez moi en interne, là, comme tu restes. Mais moi, ça va de la France, ça traverse l'Atlantique, ça va à Montréal, quoi. Et souvent, ce que je remarque, alors, je sais pas c'est la faute de quoi exactement, mais il y a des soirs ça marche très bien, il y a des soirs il y a beaucoup de mal. Je sais pas si c'est mon serveur, je sais pas si c'est le FAI à Montréal qui bloque en cas de surcharge du réseau, enfin qui limite en tout cas. J'ai pas encore analysé le problème, mais ça c'est un des problèmes que j'ai avec Jellyfin, j'ai pas eu trop avec d'autres, je crois pas. Et troisième problème que j'ai eu, c'est que le décoding ne marche pas forcément très bien. Il peut en fait t'as plusieurs types de non pas décoding transcoding ça peut se configurer mais par exemple sur mon téléphone par défaut ça marchait pas il faut que tu changes le transcoding qui est par défaut enfin voilà en gros c'est possible que parce que moi c'est très important pour moi c'est de regarder un film en anglais avec des sous-titres anglais en espagnol avec des sous-titres espagnols. J'aime beaucoup regarder en version originale avec les sous-titres, quoi. Mm-hmm. Donc Jellyfin est vachement cool parce qu'il permet de télécharger les sous-titres. Il permet de moi, mon use case était de Chromecaster, parce que j'ai un Chromecast, donc de pouvoir caster sur la télé. Ouais, il me permet de faire ça. Il me faisait les sous-titres, il était capable de transcoder pour me rajouter les sous-titres automatiquement ou quoi. Donc ça c'est top, c'est un des seuls en open source qui est aussi complet. On va pas se mentir. Par contre, suivant le device que tu utilises ou quoi, c'est possible qu'il faille changer pour chaque film, rechanger les configurations de transcoding, parce que par défaut, ça marche pas tout le temps. Voilà, c'était les trois défauts que j'ai trouvés à Jellyfin, sinon que des qualités. Enfin, c'est pas Jellyfin le coup de la limitation de la bande passante, je pense. Bon, deux défauts que j'ai trouvés à Jellyfin.
Ouais, bon, on va dire que il pourrait être le notifié. En soi, après sur les réglages,
Moi, tu dis que t'as pas eu de problème, mais je partage.
Ouais.
C'est pas l'expérience que j'en ai eu moi. On a testé sur un iPhone, on a testé sur un Android, sur une Google TV, sur une TV avec le Chromecast, sur mon ordi, sur l'ordi ça marchait bien globalement, mais quand je passais à d'autres devices, ça posait problème.
Avec le même compte?
Avec le même compte, ouais. Mais la config, je crois pas qu'elle est par compte, hein, elle est configurée sur ton device. Genre, j'ai installé Jellyfin sur Android, j'ai installé Jellyfin sur...
Oui, mais si, c'est relié avec ton compte, c'est dans tes paramètres utilisateur.
Ah. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est sur le device.
Je t'assure.
Bah non, parce que quand on installait sur l'iPhone, enfin, j'avais un seul compte pour accéder au contenu, et suivant les devices, il fallait à chaque fois retoucher les configs. Mais de transcoding, hein, j'entends.
Oui.
Ouais. Après, c'est peut-être, moi, je sais pas. Peut-être que t'as une configuration par device là. Peut-être qu'il est assez intelligent pour faire une ségrégation. C'est vrai qu'après, quand je revenais sur le device, il gardait la config. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'était là, j'ai pas ce niveau de détail. Mais voilà, moi, c'est mon geekage que j'ai avec Jellyfin. Est-ce que t'as rencontré des problèmes, toi, ou que des qualités?
Moi, les seuls problèmes, comme je disais, c'était parce que j'ai pas lu la doc, quoi.
Ouais.
J'ai eu un truc marrant. J'ai des vidéos courtes que j'avais enregistrées quand j'étais parti au studio Harry Potter là, avec ma femme et ma fille. Et bien sûr, c'était des vidéos que j'avais récupérées de chez Studio. Bref, j'avais mis un titre. un titre court à la con, notamment un où on était dans le métro de Londres, donc j'avais appelé Métro. Et je sais plus exactement l'option que j'avais sélectionnée au début pour les métadonnées. Et il s'avère que ce petit film, cette petite vidéo qu'on avait enregistrée, il me semble qu'on n'avait même pas fait une station en sous-sol, tu vois, donc c'était, 3 minutes, on va dire, maximum 3 minutes la vidéo. Et il me l'a reconnu comme un film de Wesley Snipes qui s'appelait Métro... Je sais plus, Métronoïde, je crois, ou je sais plus, enfin bref. Et du coup, au lieu d'avoir l'image de prévisualisation de
ouais,
la
il
vidéo,
a mis l'affiche,
en l'occurrence ma fille, eh ben j'avais l'affiche plus le résumé de IMDb et je ne sais plus quoi. Donc c'est le seul souci, bien qu'en plus je veux dire, dans les fichiers, dans les données ZIF de la vidéo, il y avait bien toutes les informations. C'était pas un fichier que j'ai retouché.
Ouais, mais je pense qu'il a fait un matching sur le titre.
Bah, ouais.
Je pense.
Donc, c'est le seul réglage, tu vois, par défaut que je voudrais changer. Par exemple, mettre un vrai, et que je conseille du
prévisualisation, coup, mettre... ouais. Une vraie prévisualisation et pas des affiches de film.
C'est ça. Et, pour les vidéos perso, style mariage, etc., voyage, de vraiment se créer un répertoire à part et de carrément désactiver la recherche sur IMDb ou d'autres plateformes de ce style pour ce répertoire. On peut le faire, assez simplement dans les réglages de Jellyfin. Mais comme je dis, j'ai pas lu la doc. Hein. Moi, je l'avais vu sur le répertoire, sur le dossier Piosted. J'ai dit, ah, je vais tester, j'ai installé. Après, j'ai vu que j'avais quelques limitations avec le Docker. Et puis, pour éviter de me prendre la tête et que ça soit plus stable, on va dire, j'ai préféré prendre la version des dépôts Debian et laisser des conteneurs Docker, une place pour un conteneur Docker un peu plus intéressant.
Ok. Moi je vais passer à la geekage, donc c'est parfait, parce que tu me fais une parfaite transition avec ton geekage. Comme je n'étais pas satisfait de Jellyfin, enfin pas dans le sens satisfait, je vais vous tester autre chose, c'est d'installer Kodi directement sur la TV. Alors déjà, Kodi a vraiment beaucoup changé depuis la dernière fois que je l'ai testé, c'est vraiment amélioré. Donc comme j'ai mentionné tantôt, j'ai un serveur dédié Arch Linux. J'ai pas encore reproduit le problème de bande passante, donc je sais pas encore si c'est limité à c'était le logiciel qui était en termes ressources matérielles ou bande passante ou quoi. Bon bref, j'ai pas encore reproduit. Mais Kodi, il accepte plusieurs sources lui de données en vidéo, il peut prendre du SFTP, du FTP. Du NFS, du Samba, du WebDAV, du machin, du truc. Et donc, j'ai halluciné comment... J'ai commencé par NFS. J'ai voulu faire un serveur NFS, j'ai tenté, j'ai pas trop réussi. J'ai voulu faire un serveur... Non, j'ai voulu faire un serveur Samba, j'ai tenté, j'ai pas trop réussi. J'ai voulu faire un NFS, j'ai tenté, j'ai pas trop réussi. Et là, c'était compliqué. C'était pas aussi simple que ça. J'installais, je lançais, je regardais dans la config, j'essayais de changer, mais ça marchait pas. J'avais pas voulu passer trop de temps pour débugger. Si j'avais voulu passer plus de temps, je pense que j'en serais venu à bout, mais j'avais pas beaucoup de temps et je voulais que ça marche, quoi. Mais je voulais que ça marche, voilà. Donc, j'en suis essayé à tester plusieurs techniques. Le FTP, j'avais pas trop réussi. Je sais pas pourquoi ça marchait pas avec Kodi. Enfin, ça marchait pas. SFTP non plus. Blablabla. Pourtant, j'ai un serveur FTP qui marche, hein, mais je sais pas, ça marchait pas bien. Bon, voilà. Du coup, j'étais parti pour m'installer, tenter le web dev. J'allais m'installer. Je voulais pas passer par un. Oh, comment ça s'appelle? C'est pas Apache là, c'est l'autre. Nginx. Je voulais pas passer par un Nginx. Je trouvais trop compliqué Nginx. Alors j'ai failli installer un serveur Kadi. Kadi, c'est un truc super optimisé qui faisait le web dev aussi. Un serveur web, mais fallait passer par les dépôts hors de Arch Linux, les dépôts hors de Arch Linux. J'étais pas trop fan. Alors du coup, j'en suis arrivé à tester un logiciel qui s'appelle AirClone. Beaucoup de sons en fond.
Ouais.
Parfait. J'ai voulu tester un logiciel qui s'appelle AirClone. Et qu'est-ce que AirClone? En fait, AirClone. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Macup, qui est un logiciel qui permet de faire les backups des configs. Bah, AirClone, c'est un peu... Comment ça s'appelle le logiciel que tu dis? AirClone? Non, c'est pas AirClone, c'est R5, c'est ça? Je sais plus. C'est le logiciel qui fait des copies d'un disque à l'autre, oui. Qui synchronise des folders. Ça. R5, voilà. Bah, AirClone se veut la même chose que R5 en Go. Mais au lieu de synchroniser sur un autre disque dur, ça synchronise sur des autres systèmes de storage, un peu comme je disais tout à l'heure Macup. Mais Macup, lui, ne va pas se copier un fichier comme un bête gauche-droite, il va de ton ordi à un système de storage, il va essayer d'être intelligent pour garder que ce qui est un peu intéressant à garder et pas que ça fasse des backups de 40 gigas. Là, AirClone, c'est du bête et méchant, il prend un dossier à gauche, il le met à droite. Donc il est capable de sauvegarder tes trucs sur un fichier, sur Akamai, sur Amazon, sur Critix, sur Citrix, pardon, sur Crypt, sur plein de choses. Il peut faire du crypta, il peut crypter ta sauvegarde, l'envoyer, compresser ta sauvegarde, l'envoyer. Il peut faire beaucoup de choses. Mais il a une fonctionnalité qui est aussi très intéressante, c'est qu'il est capable d'exposer tes fichiers en WebDAV. Et là, les gars, ça a été vraiment, mais d'une simplicité, c'est-à-dire que je run ma commande, je run AirClone, je lui donne AirClone, le dossier que je veux, le port que je veux, login mot de passe si je veux mettre un login mot de passe, et voilà, il m'a exposé en format WebDAV mes fichiers multimédia. J'ai donné cette URL à Cody, Cody il arrive à parser impeccable. Ça a fonctionné en ligne de commande, j'ai pas eu à me casser le bicyc, comme ils disent ici au Québec là. Ça a fonctionné out of the box et voilà, donc maintenant sur le web, moi j'ai protégé par un login mot de passe, mais sur le web, j'ai donc maintenant mes fichiers multimédia que je peux récupérer en HTTP, récupérer mes trucs et c'est automatiquement synchronisé. Si je rajoute un film, si je télécharge un film en torrent, c'est automatiquement rajouté dans le dossier, exposé, disponible dans mon Kodi. Donc voilà, très très cool. Ça m'a pris une ligne de commande. J'avais cherché beaucoup de solutions et franchement, ce logiciel, j'en suis tellement satisfait. Il est simple, il fonctionne comme philosophie Linux. Simple, fait une chose, fait bien et pas se prendre la tête quoi. Voilà, ça fonctionne sous Windows aussi. Hein. C'est du Go, c'est absolument multiplateforme. Mais après avoir essayé plusieurs choses, j'ai quand même galéré plusieurs heures. Là, j'ai été époustouflé par la simplicité du truc. Donc vraiment, je recommande. Et donc, ma solution à moi de multimédia, ce n'est pas Jellyfin. C'est donc un Kodi avec un petit AirClone qui tourne en fond, qui me sert du WebDAV. Voilà. Toi, j'ai vu que tu connaissais déjà AirClone.
Oui.
Tu l'as utilisé dans quel contexte, toi?
Bah moi, c'était dans le pro.
Pour des backups, alors?
Non, pour des SharePoint.
Oula. Faire des SharePoint avec AirClone?
Ouais, tu peux synchroniser les SharePoint. En fait, tout ce qui est connecté à, comme tu disais, tous les storage. Donc, on peut se connecter avec un OneDrive, perso ou professionnel. OneDrive, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ouais, il y a Mega, il y a des mails, il y a des machins, il y a des Oracle, il y a des clouds. Ah, il y a une cinquantaine de trucs sur quoi tu peux sauvegarder.
C'est ça. Et du coup, ouais. sauf que il faut que ça soit autorisé par l'administrateur. Ça se fait en quelques clics sur le Microsoft Manager, Intune Manager, je crois qu'il s'appelle. Pour les côtés admin, on peut autoriser ou sous différentes méthodes, donc soit avec un token, soit en authentification, double authentification plus effacement du token qui est créé lors de cette session. Enfin bref. Entre-temps, ils ont durci les règles de sécurité, donc le R-Clone ne fonctionnait plus. Il est éjecté, mais parce qu'il n'est pas autorisé.
Bah pourtant, AirClone, il peut fonctionner en FTP,
Oui,
SFTP,
tant qu'il est
HTTP.
autorisé.
Non,
Là,
mais
c'est
je...
vraiment niveau configuration sur l'outil Microsoft. Microsoft Management qui est bloqué. C'est pas
Ok, d'accord.
voilà parce que je l'ai testé sur un compte Microsoft que j'ai depuis je ne sais plus combien de temps là, un compte perso et il fonctionne toujours quoi. J'augmente les niveaux de sécurité qu'il y a dessus, il n'y a pas de problème tant que je revalide derrière dans l'interface de gestion côté Microsoft. Tant que tu l'autorises à nouveau, etc., il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un bel outil. Hein. On peut et en plus l'équivalent, c'est que il garde, comme je disais tout à l'heure, il garde les droits. Voilà, si je sais pas ton fichier, il appartient à Toto et que il est dans le groupe. Nos idées ont du talent. Voilà, tu le remets sur un autre poste, il va garder les groupes. Nos idées ont du talent et le fichier appartiendra à Toto.
Tu vois, je savais même pas ça, tu vois. J'ai pas eu cette utilisation-là, mais ouais. Ok, mais tu vois, bel outil, hein, franchement, AirClone.
Très assez simple. Par
Et
contre, voilà,
efficace.
faut pas faire un man AirClone tout simple parce que sinon,
Ouais, il y a
il y
beaucoup
en a pour
d'options,
qui,
tu peux faire beaucoup de
voilà.
choses, mais ça, malgré qu'il y ait beaucoup d'options, ça reste simple, ça qui est fou. Ok, ben c'était tout pour moi. Ça va être l'heure que je m'en aille, parce qu'en plus, il faut que je mange. On avait vraiment besoin, je pense, de deux épisodes hein, pour enregistrer.
Ouais. Surtout que en plus, y a la partie P-Hosted qui est super cool pour le Raspberry Pi. Ça, par contre,
On l'a loupé?
voilà,
Ah, dans les geekages, on l'a loupé, on l'a pas encore fait.
ouais.
Ah.
Parce que j'ai fait juste la partie donc Joplin, donc j'avais parlé, le serveur de. Là en l'occurrence, c'est un Docker
De notes,
qui.
ouais.
Ouais, mais en fait, il synchronise juste les notes et la configuration de ta machine. J'ai vu qu'il existait aussi en version avec un desktop, etc. Mais j'ai pas testé ça. Je préfère avoir mes clients sur chaque. Sur chaque appareil, téléphone, etc.
Ouais.
Mais ouais, Piosted est comment dire, multi-usage.
On pense que tu arriveras à
Donc.
faire un petit crowdcast là-dessus. Je vais pas avoir le temps de rester pour la finir ton geekage, je suis désolé.
Clairement, c'est un épisode pas entier, mais de toute façon, je pense de le reforquer et.
C'est déjà fait, j'ai l'impression.
Oui, mais celui-ci, comme on le voit dans les notes, il sert juste pour l'ajout de la feature sur le repo principal. Mais je vois, ça fait plus de 3 semaines que j'ai posé le truc. Je sais que ça fonctionne. Il est toujours pas mergé, donc rajouté à la broche principale. Donc je pense que je vais le forquer et cette fois-ci le rester en tant que mainteneur sur cette branche parce que j'ai plein d'autres trucs à ajouter Voilà Bag, Castopod, et encore plein d'autres dont j'ai l'idée. Mais vu que je suis bloqué là de ça, je vais devoir monter mon.
C'est dommage parce que ta paire, elle a l'air de marcher là. Je vois, tu fais un.
Oui.
Tu fais les. Il y a les Dockerfile et tout là, je vois.
Oui. Ma paire fonctionne parce que je l'utilise. Mon PyOsted à moi, celui qui est sur mon Raspberry Pi, tourne dans les sources. Il est référencé mon dépôt.
Ok.
Donc je sais que ça marche quoi. La preuve, je l'utilise. C'est juste qu'ils ont lancé ça. Le YouTuber en question n'a plus le temps parce qu'il travaille sur d'autres projets de vidéos, etc. Donc il suit moins. Et les personnes qu'il a mis en tant que mainteneur, on n'a rien à péter, quoi. Ils poussent leur truc à eux, et puis voilà. Donc,
moi, globalement, je vois qu'il y a un peu moins de trafic. Il y a une baisse de trafic sur 2023. Mais...
Oui. Ça correspond à l'arrêt des vidéos sur sa chaîne.
Ah, ok. D'accord. Bon, peut-être c'est juste périodique. Bon, moi, je vais vraiment devoir te laisser, par contre. Je n'ai même pas encore mangé, et il est déjà quasiment 14h. Je vais devoir te laisser. Je vous dis au revoir, les auditeurs.
Ouais.
Tu nous mets un petit. T'as pas fait beaucoup d'animations sonores là sur cet épisode ?
Oui. J'ai encore changé de source pour être tranquille.
Ah, ok. Dommage. Ce sera un épisode sans habillage sonore. On restera simple, basique, efficace.
Ouais. Bon après, si tu veux, je peux t'envoyer les sources de mes transitions.
Oh là, l'épisode, c'était quoi? Bah, c'était l'épisode, pas celui d'avant, mais celui d'encore d'avant. Enfin, pas celui. Bon, cet épisode, on considère que c'est un épisode en deux épisodes, là. Mais bon, l'épisode d'avant avec la musique d'Orelsan, juste d'avoir mixé cinq premières minutes, ça m'a pris plusieurs heures. J'ai toujours faire un fondu de la musique sur le pack, ça couvre trop les voix, tout ça. Trop long. Ah là là, c'est un cauchemar quand tu veux vraiment bien habiller. Enfin, si t'as pas le matos là, ou t'appuies sur le bouton, ça lance le jingle. Le faire en post-production, c'est tout de suite beaucoup plus de travail. Anyway, oui, et ben John, ça m'a fait plaisir de partager avec toi ces petits geekages et recommandations. Puis ben on se retrouve le mois prochain en janvier pour un nouvel épisode.
Ça marche.
Allez, ciao.
Salut.